Notre oreille ne sert pas uniquement à entendre, elle stimule notre cerveau et détermine notre équilibre. Mais il arrive quelquefois que des jeunes et des moins jeunes aient des problèmes d'écoute. Bien sûr, il est important de consulter un médecin, mais des méthodes complémentaires peuvent contribuer à une meilleure écoute et parmi celles-ci, la méthode Tomatis. Pascal Guérard, consultant, nous a ouvert la porte de son cabinet.
Mais en fait, toutes les personnes qui viennent nous voir sont des personnes dont la chaîne d'écoute ne fonctionne plus de manière optimale et qui souhaitent rétablir une bonne écoute.
Alors, qu'est-ce qu'une bonne écoute ?
Alors, une bonne écoute, ça veut dire que c'est un accord, je dirais, complet entre une oreille et ses différentes fonctions et l'interférence motrice qu'elle va avoir aussi sur l'ensemble du corps.
Alors, quels sont ces parasites ?
Alors, les parasites sont nombreux parce que l'oreille a beaucoup de fonctions. Une première fonction qui est une fonction de charge au niveau du cerveau, c'est-à-dire que c'est l'oreille qui va produire 80% des stimuli sensoriels du cerveau, donc ce qui va permettre au cerveau d'être alimenté en permanence. La deuxième fonction de l'oreille, ça va être la fonction de l'équilibre. C'est tout ce qui va nous permettre de gérer notre posture, la tenue de notre corps et également un certain nombre de mouvements qui ont besoin d'être régulés, comme les mouvements oculaires, enfin, ou d'autres de mouvements qui concernent l'équilibre en général du corps. Et puis la troisième fonction de l'oreille, bien sûr, c'est de transmettre au cerveau des éléments précis sur le son, c'est-à-dire la nature du son, quelles sont les fréquences, quelle est la puissance auquel le son est entendu. Et c'est le cerveau derrière qui va analyser tout ça et qui va dire que le son qui est entendu, effectivement, est de la voix, du chant ou simplement du bruit.
Alors, donc, je reviens à ma question. Les personnes qui viennent vous voir, qui sont-elles ? Qu'est-ce qu'elles souhaitent au départ ?
Mais il y a plusieurs catégories de personnes qui viennent me voir. Il y a tout d'abord des personnes qui ont l'impression de moins bien comprendre leur entourage, d'être un petit peu isolées. Bref, des personnes qui vont généralement traduire ça au départ par une baisse d'audition. Mais en fait, bien souvent, c'est une baisse d'écoute. C'est-à-dire qu'au cours de leur vie, il s'est passé un certain nombre de choses qui font que le cerveau a mis des protections et qu'ils ne sont plus capables d'entendre la totalité de tous les messages qu'il peut y avoir autour d'eux. Ça, c'est une première catégorie de personnes. Donc, ça va se traduire aussi par des personnes qui sont plus ou moins stressées, qui ont un manque de confiance en elles, qui sont fatiguées, qui ont du mal à distinguer des sons, par exemple, ou à distinguer des conversations quand elles sont dans un milieu bruyant. Ça, c'est une première catégorie. Il y a une autre catégorie de personnes, et là on va trouver aussi surtout beaucoup d'enfants, parce que ça c'est dans les processus d'apprentissage que ça va se révéler, c'est des personnes effectivement qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à mémoriser, et qui cherchent un petit peu la cause et qui cherchent un remède à ça. Et puis, il y a également une troisième une grande catégorie de personnes. Ça va être des personnes qui viennent chercher une solution pour avoir une aide dans l'apprentissage des langues, puisque l'oreille française, culturellement, est sur des fréquences très basses, est avec une prosodie très particulière et qui ne correspond pas aux principales langues étrangères que l'on essaye d'apprendre, en particulier l'anglais.
Et maintenant, on va voir avec vous un peu ce qu'est cette méthode Tomatis. Qui était Tomatis ?
Alors, qui était Tomatis ? Parce que malheureusement, il a disparu. Tomatis était un ORL qui travaillait beaucoup sur les problèmes de voix également, puisqu'il était phoniatre, qui a, à travers ses travaux, émis plusieurs lois qu'il a déposées à l'Académie des sciences en 1957. La première loi étant que la voix ne reproduit que ce que l'oreille entend. Alors, on comprend tout de suite, par exemple, pourquoi il y a très peu de vrais muets, mais que, par contre, des sourds-muets, des personnes qui sont sourdes, qui n'ont pas pu entendre, eh bien, ont eu beaucoup de mal dans l'acquisition du langage. Mais ça, ce phénomène, je dirais, d'écoute altérée qui intervient sur le langage, on va le retrouver aussi dans beaucoup d'autres domaines. La deuxième loi Tomatis, c'est que si on modifie l'écoute, si on modifie l'oreille, automatiquement, eh bien, la voix va pouvoir se modifier. Donc tout à l'heure, je parlais des langues étrangères en particulier. Ben là, c'est une application évidente que si on reformate un petit peu une oreille en lui ouvrant le champ des fréquences qu'elle peut entendre, en le faisant travailler avec une prosodie, avec une musicalité différente, eh bien, elle va pouvoir effectivement être beaucoup plus opérationnelle sur les langues étrangères. Et puis, la troisième loi Tomatis, c'est que si on fait ça de manière durable, eh bien, ça s'installe et ça reste. à partir de là, j'irai, on va intervenir avec un matériel spécifique que Tomatis a mis au point. D'une part, un matériel qui va travailler sur le son, donc qui va permettre de modifier les fréquences, qui va permettre de retarder également certains phénomènes de bascule électronique avec cet appareil-là, mais en fait qui correspondent à une bascule de notre écoute, c'est-à-dire que quand nous entendons des sons, à partir d'un certain seuil, notre cerveau, dans un premier temps, va déclencher un premier processus d'écoute et analyser ce son pour savoir si le son est un son digne d'intérêt ou pas. Et puis, s'il est digne d'intérêt, à ce moment-là, va mettre en œuvre toute la chaîne tympanique pour pouvoir permettre une bonne écoute.
Je vous laisse répondre puisqu'il y a une personne qui vient vous voir. Bonjour, madame. Alors Karine, vous êtes venue consulter. Est-ce qu'on peut savoir les raisons qui vous ont poussé à pousser la porte, si je puis dire ?
Alors, mon fils a fait pas mal d'otite, a eu des gros problèmes auditifs et malgré les opérations de yo-yo, ça ne suffisait pas. Donc, la rééducation Tomatis me semblait la plus opportune pour justement refaire cette rééducation mécanique.
Comment avez-vous connu cette méthode ?
Alors, j'en avais entendu parler il y a une dizaine d'années. Et puis, par hasard, au moment où j'en ai eu besoin, c'était un peu plus dur de retrouver l'info. Mais je savais qu'on pouvait refaire une rééducation avec la musique de Mozart et la voix de la maman. Et c'est en parlant avec l'orthophoniste, en fait, que j'ai réussi à retrouver Tomatis. Et comme ça, j'ai réussi à trouver.
Concrètement, comment ça se passe ?
Mon fils donc vient, là il est à sa quatrième séance, hein, c'est sa quatrième session. Donc il a des séances de 2 heures pardon, avec un casque et puis une petite stimulation au niveau de la boîte crânienne. Et donc il écoute 4 morceaux de musique. Et apparemment ça permet, je dirais, de faire un reformatage du cerveau de façon à ce que son oreille entend et ce que son cerveau comprend, ben, ça se synchronise.
Alors, est-ce que vous percevez des changements ou pas, ou est-ce que votre fils, il vous en parle ?
Alors, je sens que mon fils a conscience qu'il en a besoin, parce que je vois, il y a les vacances de Noël, par exemple, on n'a pas fait de session, et il réclamait lui-même, justement, de revenir. Et on s'était rendu compte au niveau scolaire que ça recommençait à baisser. Et là, vraiment, ça lui fait énormément de bien, ça lui permet d'être un peu plus assagi, un peu plus concentré, parce que ça le rendait un peu hyperactif, justement, ces petits problèmes auditifs.
Aujourd'hui, c'est un peu particulier, parce que vous allez enregistrer votre voix.
Oui. Donc là, aujourd'hui, je suis mise à contribution. Donc apparemment, pendant 40 minutes, je vais lire Le Petit Prince, disons à mon fils. Et lui, apparemment, aura la musique ensuite refiltrée. Donc si ça se trouve, il ne se rendra même pas compte que c'est la voix de sa maman.
Alors pourquoi, Pascal Guérard, la voix de la maman est enregistrée ?
Alors, elle est enregistrée parce qu'on va l'utiliser dans certaines démarches, parce qu'on va la restituer en fait à l'enfant de la manière dont il l'entendait en intra-utérin. L'oreille est le premier organe sensitif terminé à l'état intra-utérin et à la 19e semaine de la grossesse. Et donc c'est cet organe-là qui va commencer à imprimer au cerveau un certain nombre d'éléments et qui va un petit peu le formater pour tout ce qui va être mémorisation et autres. Et donc les souvenirs, en fait, nos souvenirs remontent à peu près jusqu'à cette période-là. Et donc on va utiliser la voix maternelle pour ramener l'enfant à l'état intra-utérin, dans un état où il était bien, où a priori tout se passait bien pour lui, parce que en fait sa chaîne d'écoute s'est probablement altérée après, soit par des problèmes au niveau de la naissance, soit par d'autres histoires dans sa vie ou des accidents qu'il a pu avoir.
Donc elle va se retrouver un petit peu modifiée, cette voix ?
Alors, moi je le fais au départ effectivement un enregistrement qui va être un enregistrement de la voix telle qu'elle est, mais quand je vais la restituer à l'enfant, en tout cas tout au début, ce sera avec effectivement un grand filtrage et puis avec des modifications au niveau prosodique, au niveau de la musicalité pour se rapprocher au mieux de ce qui était entendu en intra-utérin. Là je suis justement avec le petit garçon qui est là en ce moment, je suis à un filtrage très élevé et juste après cette séance-là, je vais utiliser la voix de sa maman avec le même filtrage et progressivement, je vais défiltrer jusqu'à ce qu'il prenne conscience que c'était la voix de sa maman qu'il entendait et qui lui donnait du bien-être.
Il va entendre plus tard les sons qu'il n'entend pas encore aujourd'hui ?
Alors, au niveau du parcours de cet enfant, comme l'a dit sa maman tout à l'heure, c'est sa quatrième session, donc on a déjà rétabli un certain nombre de fonctions d'écoute au niveau de l'oreille, c'est-à-dire que les sons avec des fréquences très hautes, il les entend maintenant, et donc c'est pour ça qu'on peut utiliser la voix maternelle comme elle était en intra-utérin. Si on l'avait utilisée dès le départ, ça n'aurait pas eu de sens, puisque de toute manière, au départ, c'était des fréquences et des sons qu'il ne pouvait pas entendre.
Pascal Guérard, pourquoi la petite musique de nuit de Mozart ou le chant grégorien est quelque chose que vous utilisez ?
Alors, les supports qu'on utilise, effectivement, comportent les supports sonores, comportent beaucoup de morceaux de Mozart qui ont été sélectionnés par Tomatis et pour des raisons bien précises. C'est qu'en fait, la musique de Mozart est une musique qui correspond, et ça a été tout son génie, à notre rythme physiologique. Et c'est pour ça que c'est une musique qui va être très régulatrice et qui va réactiver au niveau du corps un certain nombre de fonctions. Et le grégorien, c'est exactement la même chose, mais simplement, ça réactive d'autres fonctions.
Est-ce que vous avez des retours sur ces séances que vous organisez ?
Oui, bien sûr. J'ai des retours, d'une part, de la part des adultes qui les suivent sur leur changement de comportement, sur leur mieux-être, sur, effectivement, quand on fait une amélioration, une intégration linguistique, sur leur meilleure capacité à pouvoir s'exprimer dans une langue étrangère et à l'écouter. Mais également, on a des retours sur les enfants qui nous font remonter un certain nombre d'informations de changements dans leur comportement.
Est-ce que ça peut aller jusqu'à un changement, je dirais, physique ?
Ah, bien sûr, et j'ai des exemples, moi, d'enfants, par exemple, d'enfants autistes ou d'enfants qui ont des handicaps assez importants, où, en travaillant avec le son, on rétablit un certain nombre de fonctionnalités motrices.
C'est-à-dire qu'ils arrivent à être plus équilibrés ?
Oui, ils arrivent à être plus équilibrés, à mieux maîtriser leurs gestes, à mieux les coordonner. Pour certains enfants, c'est aller jusqu'à leur permettre de courir, ce qu'ils n'étaient pas capables de faire avant.
Par exemple, pour des enfants ou des jeunes qui sont dyslexiques ou qui ont un bégaiement, c'est possible ?
Alors absolument, en général, la dyslexie et le bégaiement sont accentués justement par un problème d'écoute. Et à partir du moment où on rétablit une bonne écoute, le circuit de réaction étant beaucoup plus court, eh bien on voit, en ce qui concerne les bégaiements, on voit les bégaiements d'abord s'espacer et puis après disparaître. Et puis également, pour les dyslexiques, ça leur permet de ne plus confondre et de pouvoir, avoir une meilleure concentration, puisque du coup, la boucle entre ce qu'ils émettent et le message qu'ils ont en retour du monde extérieur est en accord. Il y a d'autres enfants également pour lesquels c'est important, c'est les enfants qui sont hyperactifs, puisque en fait l'hyperactivité d'un enfant correspond à la compensation d'un manque de stimulation sonore au niveau du cerveau généralement. Donc l'enfant va s'agiter en permanence pour donner des stimuli au niveau du cerveau qu'il ne peut pas produire par sa chaîne d'écoute. Et donc en rétablissant une bonne écoute, on constate un assagissement de l'enfant. L'enfant est beaucoup plus calme puisque du coup l'énergie, il la récupère par le son et par son oreille, par sa chaîne d'écoute, et non plus en s'agitant en permanence.
Eh bien, merci Pascal Guérard de nous avoir ouvert votre cabinet.